Le débat politique du premier média centrafricain d'aujourd'hui est consacré aux travaux de la fibre optique, une technologie qui permet de disposer d'un accès Internet efficace sur toute l'étendue du territoire centrafricain, bien sûr. Le projet Dorsal Fibre Optique d'Afrique centrale composante République centrafricaine est cofinancé par la Banque mondiale, la Banque africaine, j'allais dire, de développement et l'Union européenne à hauteur de plus de 33 millions d'euros, soit plus de 21 milliards de francs CFA. Son objectif est de favoriser l'augmentation des recettes fiscales, la réduction du coût des transactions économiques et sociales, ainsi que le désenclavement numérique des zones rurales du pays. Des travaux de la fibre optique ont été officiellement lancés le 27 juillet 2020 à Berberati, dans la Mambéré KDI. Impatients, les centrafricains se demandent à quand l'opérationnalisation de cette fibre optique. Cette interrogation principale va nous permettre de comprendre les raisons du retard accusé dans les travaux et pour en parler, je reçois M. François-Xavier Découpou, coordinateur national du projet Dorsal la fibre optique d'Afrique centrale. Bonjour et bienvenue dans cette émission, monsieur.
Bonjour, monsieur Armando.
Monsieur Enoch Gauthias, bonjour.
Bonjour, monsieur Armando.
Voilà, vous êtes chargé de mission de développement des infrastructures au ministère des Postes et des Télécommunications. Et Raymond Adouma, bonjour.
Bonjour, Armando, et bonjour à tous les auditeurs de Ndekeluka.
Cadre à la Société centrafricaine des télécommunications, ancien ministre et membre de l'opposition démocratique, Armando Nguindi. C'est moi, bonjour à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, voilà, vous êtes dans Débat Patara, le grand débat politique de Radio Ndekeluka consacré aux travaux de la fibre optique.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà, ouvrons cette discussion démocratique. Première question à vous, monsieur le coordinateur Découpou. Où en sommes-nous avec les travaux d'installation de la fibre optique dans ce pays?
Merci, monsieur Armando. Donc, pour les auditeurs de Radio Ndekeluka et les Centrafricains et Centrafricaines, nous allons vous situer sur l'état d'avancement des travaux de la fibre optique qu'on a débuté depuis 2019. Comme vous le dites, le projet en tant que tel a vu jour en 2018. Et il y a des conditions de mise en vigueur, comme pour tout projet. On a finalisé conditions de mise en vigueur. Et après, on a lancé le projet le 4 octobre 2019 à Berberati par le président de la République, chef de l'État. Donc, avant le lancement de ce projet en 2019, vous savez que ce projet ne pouvait pas voir jour, n'eût été l'implication directe de son excellence, le professeur Faustin Touadéra, qui a saisi son homologue du Congo pour nous appuyer dans la réalisation de ces travaux. Nous avons signé l'accord de financement avec la Banque africaine de développement et avec l'Union européenne pour un montant de 33 millions d'euros, mais à un gap de 10 millions de dollars qui restait pour notre interconnexion avec la République du Congo. Ces 10 millions, nous sommes obligés de saisir nos collègues du projet CAP Congo à travers le gouvernement congolais pour nous appuyer pour préfinancer ce gap de 10 millions. Et c'est sur une distance de 145 km. C'est entre Wesso et Salou. Si nous n'avons pas reçu ce gap-là, le projet ne devait pas avoir jour. C'est ça les premières conditions. Pourquoi on avait signé l'accord en 2018 et pourquoi on a lancé les travaux en 2019.
Presque même 2020.
Presque 2020 parce que c'est en octobre. Donc cet accord en tant que tel qui a déclenché l'accord a été signé le 6 août 2019 à Bangui. Et l'État congolais puis celui pour ne plus préfinancer les 145 km entre Wesso et Salo, pour nous permettre l'interconnexion avec la République du Congo. Dès qu'on a signé cet accord au mois d'août 2019, automatiquement, on a pris pour signer aussi l'accord, la convention des travaux en 20 septembre 2019. Et là, le chef de l'État a dit que nous avons déjà tous les éléments, on peut maintenant lancer officiellement le projet de la dorsale à fibre optique. C'était comme ça qu'on avait lancé le chef de l'État. C'était sous le chef de l'État. Il a décidé de lancer ça à Berberati le 4 octobre 2019. Après le lancement en tant que tel, on a commencé. Il y a des conditions en tant que tel pour l'installation des travaux. L'installation des travaux a vu jour et qu'on devait démarrer effectivement au mois de janvier. Au mois de janvier, déjà, il y en a un petit souci. On commençait à courir des trucs de pandémie. Parce que ça vient de la Chine. Et les travaux ont été confiés à une société coréenne, sud-coréenne. Il faut bien préciser, ce n'est pas la Corée du Nord, de Sud-Corée. Mais la Corée du Sud se situe au-delà de la Chine. et il y a la pandémie. La pandémie est venue au mois de février. Et que nous, ils ont déjà lancé des commandes. Ça, c'est la première cause de retard. C'est la pandémie qui a causé le retard. Dès que la pandémie est arrivée en février 2020, et ça a étalé jusqu'au mois de juin, les premiers comptes étaient bloqués. Ça, ça jouait sur
l'approvisionnement. Et donc, c'est la pandémie de Covid-19.
Ça, c'est la première cause. Deuxième cause, maintenant, pour le retard accusé en tant que tel, au moment qu'on a tout fait pour que ces équipements arrivent avec un retard de 4 mois d'après, donc c'est de février, les premières commandes, au mois de juillet, les équipements sont arrivés, les PSD pour les travaux, pour mettre les fouilles, le câble, on a commandé le câble va venir après, mais à la fin, on a commencé effectivement, on a lancé effectivement les travaux le 27 juillet, comme vous le dites, à Berberati, pour les premières pioches, pour les tranchées, à Berberati le 27 juillet 2020. Après, on a commencé les travaux. À la fin, maintenant, il y a les élections.
2020. Émaillé par des crises. Voilà.
Et ces élections, il y a des campagnes, tout et tout. On a stoppé un peu.
Qu'est-ce qu'il y a d'impact sur les travaux lorsque vous évoquez la question des élections?
J'ai dit les élections, pourquoi? Parce qu'en décembre, en tant que tel, au moins, pendant la période des élections, tous les ouvriers, ce sont des militants, des partis, ils se sont mobilisés pour aller aux élections.
Mais il ne peut pas aussi partir en masse pour battre campagne.
Non, bien. Attends, nous, on a connu ça dans l'ARPI. Au niveau de Bangui, ils ne sont pas. Mais dans l'ARPI, en tant que tel, ce sont des jeunes qu'on a recrutés pour faire les travaux. Parfois, aujourd'hui, on a tapé sur 300 personnes. Parfois, on reçoit 10 personnes. Parfois, on reçoit 20 personnes. Et ça, ça joue. C'est l'état d'avancement des travaux sur les tranchées. Donc ça, on a pris en compte. Ça, c'est aussi un autre volet. Et dès après les élections, c'est fini en décembre. On veut relancer les activités, en augmenter le nombre des ouvriers. Nous sommes arrivés au mois de juin avec la crise militaro-politique. Ça aussi, ça totalement bloqué. Tout ce qu'on a commandé, arrivé au niveau de Douala, était resté. Il n'y a plus de voie maintenant pour assimiler les équipements jusqu'au niveau de Berberati. Vous connaissez tous, nous sommes centrafricains. Vous connaissez dans quel état nous avons traversé le mois de janvier 2021 jusqu'au mois de mars 2021. Et aussi, on a déjà lancé des travaux au niveau de Berberati, au niveau de Boali, au niveau de Baoro, au niveau de Bangui. Et on avait fait, zone de Boali, notre chantier principal. Tous les équipements, les PSD, les tuyaux, c'est comme on a dit que c'est ça, c'est l'organe technique.
Oui, c'est trop matériel.
Donc, oui, ce sont les matériels, tous les matériels, tout et tout, se trouve au niveau de Boali. Face à cette crise qu'on a connue le pays, et le site de Boali a été saccagé, vandalisé et tout pillé. On a des images. Après mars, avec le membre du gouvernement, avec le ministre Justin Gourou-Nazako, nous sommes déplacés au niveau de Boali pour faire l'inventaire de ce qui reste et projeter l'avenir. Ça, on a pris sur nous. On a essayé de voir avec l'entreprise, d'accélérer et de voir dans quel état on peut progresser. On a suspendu des activités au niveau de cette section de Bangui-Boali et Boali-Bossambélé. On a continué sur d'autres volets. Et nous, maintenant, entre-temps, on a dit qu'on va faire seulement des travaux de manière manuelle. Donc, on utilisait plus la main-d'œuvre locale. Donc, c'est une approche Timo qu'on avait utilisée. Mais face à la situation de retard accusé en 2020 contre la pandémie et avec la crise, nous sommes obligés d'utiliser des travaux mécanisés. Mais sur une section où on sait qu'on ne va pas retrouver des ouvriers, c'est la section Baoro et Carnot. C'est ce qu'on avait fait. Entre-temps, déjà, on a anticipé sur d'autres volets, sur la section Berberati-Gamboula et la section Berberati-Yamando, Lopo et Nola et Salou. On a déjà anticipé. Sur ce point, il n'y a pas de problème. Donc, voici quelques petits points sur lesquels le retard
voilà, si ça
accusé.
Vous va, on va y revenir. Oui. Un à un pour voir quels sont les aspects qui ont provoqué le retard accusé dans l'opérationnalisation de cette fibre optique. Monsieur Enoch Gauthias, vous êtes là, vous êtes aussi chef de mission, vous êtes dans ce débat, vous êtes du ministère des Postes et Télécommunications. Quels sont vos commentaires sur ce que le coordonnateur venait de dire? Vous participez encore dans ces travaux?
Oui, monsieur Armando. Je suis responsable au niveau du département, mais également je participe de manière active aux activités qui se font au niveau de l'unité de gestion du projet KBRCA. En effet, les causes du retard telles qu'évoquées par le coordonnateur, ce sont ces facteurs qu'il vient de citer qui ont vraiment impacté sur l'avancée des travaux de la fibre optique. Donc je pense qu'en plus de ça, Nous avons aussi un aspect qui concerne l'aspect technique qui n'a pas été évoqué, notamment les commandes. Comme il a dit tout à l'heure que nous avons passé, ce n'est pas un seul équipementier qui nous a fourni l'ensemble de nos technologies, mais il y a plusieurs fournisseurs. Donc, par exemple, vous prenez les tubes, les fibres, tout ça là. Nous avons passé la commande auprès de la Corée du Sud, mais le cœur du système a été construit par l'ECE, qui est à la fois une industrie israélo-américaine. Et la partie énergie, tout ce qui accompagne, c'est une firme grecque qui l'a conçu. Donc, en passant ces commandes, et également avec le délai de réalisation, vous voyez, ce n'est pas le même firme qui a réalisé les travaux. Donc, du coup, cela aussi a impacté sur le délai. Donc, aujourd'hui, on peut se dire que de ce côté, tout a été balisé. Nous avons reçu l'ensemble de nos équipements. Le chantier est en cours de réalisation, mais ces difficultés, il y a aussi des difficultés d'ordre technique qui se font. Et nous faisons venir également des compétences qui ne sont pas uniquement coréennes. Donc, il y a aussi les Américains, il y a les Israéliens, il y a les Grecs qui, de temps en temps, descendent sur le terrain pour assister à la réalisation de ces travaux. Donc, c'est tous ces facteurs-là qu'il faudrait mettre ensemble pour évoluer un peu l'avancée de ce projet-là.
Oui, monsieur Raymond Adouman, vous avez écouté les travaux, le retard accusé et les raisons aussi évoquées par le coordinateur, le chargé de mission. Qu'en dites-vous ?
Merci, Armando. Je voudrais tout simplement rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on a un projet de fibre optique en République centrafricaine. Il y a eu, je crois, en 2007, parce que les pays développés voulaient que les pays également de l'Afrique centrale soient connectés. Et ils ont lancé un vaste financement des projets fibre optique dans nos pays. Et les autres pays de l'Afrique centrale, eux, ont saisi cette occasion pour réaliser entièrement leur réseau fibre optique. Donc aujourd'hui, ces pays sont dans ce qu'on appelle la phase 3 du projet, c'est-à-dire l'extension de la fibre optique au niveau national de leur pays et également l'extension au niveau international, l'implémentation de, par exemple, du high-tech, biométrie ou autre. Hein. Donc, ils sont à un niveau très avancé. Nous, nous sommes encore à la phase 0, parce qu'on n'a pas encore fini de réaliser la phase 1. Le premier projet, géré pratiquement par les mêmes personnes, a échoué. Si à un moment donné, on avait évoqué les crises dans notre pays et qu'on a voulu transformer ce premier projet en l'installation de centres communautaires, on ne verra pas ces centres communautaires aujourd'hui exister. Donc, ça a été un total échec. La République centrafricaine reste le dernier pays africain qui n'arrive pas à avoir de fibre optique. C'est dommage. Et donc, pour moi, la lenteur de ce projet ne m'étonne. Et je voudrais rappeler que l'entreprise sud-coréenne qui était ici, chargée d'exécuter ce projet, a déjà plié bagage. Tout simplement parce que le financement a été arrêté. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. La Banque mondiale, et je dis la Banque mondiale, la BAD et l'Union européenne ne financent pas pour le moment ce projet. Ce qui fait que l'unité même de coordination existe de nom. Pour le moment, il n'y a pas de financement. Et même le coordinateur aujourd'hui, il est nommé plutôt chargé de mission, un peu pour épauler le ministère, peut-être avec son expérience là-bas. Donc c'est un projet qui est arrêté, c'est-à-dire que le financement est arrêté.
Des travaux de cette fibre optique.
Oui, oui. Et c'est arrêté d'après les informations que j'ai reçues, parce que le volet social...
C'est l'un des volets ou bien le projet, vous voulez parler de...
Le financement du projet est arrêté. Donc l'entreprise qui est chargée d'installer la fibre optique, de réaliser sa connexion, a déjà plié le bagage, n'est pas en République centrafricaine pour le moment. Et je dis même l'unité de coordination existe de nom, parce que le responsable là, il est nommé maintenant chargé de mission au ministère. On ne peut pas faire les deux, c'est difficile un peu faire les deux.
D'abord, vous allez rebondir.
Oui, je voulais rebondir à ce point-là.
Allez-y. Oui. Vous n'avez pas confirmé, M. Adouman.
Oui. Donc, d'après les informations que j'ai reçues, le volet social a été mal géré. Et c'est ce qui a fait que ces deux bailleurs ont arrêté le financement. Donc on ne peut pas s'attendre aujourd'hui à l'opérationnalisation de ce réseau. Et quand je vois par exemple des cérémonies qui se font, on inaugure des incubateurs et autres, alors que le réseau ne fonctionne pas, mais à quoi cela va servir? Parce qu'on inaugure un équipement et on ne peut pas le mettre en œuvre. Moi je ne comprends pas cette logique. Vraiment je tombe des nues parfois. Mais soyons un peu sérieux intellectuellement, donc dans les démarches. Bon, vous savez Armando, comment un projet se gère? Un projet se gère en plusieurs phases. Et donc, quand vous avez, par exemple, réalisé les études, ben après, vous avez la phase où on vous décaisse le premier financement, vous installez l'unité de gestion, vous commencez à lancer les appels d'offres pour recruter les entreprises et autres. Et cela évolue comme ça. Mais aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle phase on est parce que le projet s'est arrêté. Si on nous déroule les phases aujourd'hui, on nous indiquera où est-ce qu'on en est exactement. Mais ce projet était pour une durée de 3 ans. S'il y a eu des retards, ces retards sont de combien de mois? Et aujourd'hui, on peut les rattraper dans combien de temps?
on ne va pas gérer un projet pendant des années sans y aboutir. Mais je rappelle que le premier projet a échoué avec les mêmes personnes.
Monsieur le coordinateur, vous voulez répondre tout à l'heure.
Ok, monsieur Armando, je voulais dire totalement aux Centrafricains, cette information détenue par le ministre Adouma, je ne sais pas où il retrouve ces informations. Le projet en tant que tel, pour moi, je dis que je ne suis pas chargé des missions au ministère de l'économie et des postes et télécommunications. Je demeure coordinateur du projet fibre optique.
Est-ce qu'avec rang et prérogative, chargé de mission ou pas?
Toujours, il n'y a même pas rang et prérogative. Je ne suis même pas du département. Je suis au département en tant que coordinateur du projet fibre optique, mais pas chargé des missions au ministère de l'économie numérique et des postes et télécommunications. Premier, ça c'est le premier point. Deuxième, on dit que le projet est arrêté. Le projet a pris fin.
Le premier volet.
Je ne sais pas où il trouve ces informations. Le projet en tant que tel est en cours. Et nous sommes là présentement à la phase de finition. Et que nous sommes en train de trouver un calendrier. Le gouvernement, déjà pour votre information et l'information du peuple centrafricain, le gouvernement a choisi la date du 23 décembre 2022 pour la remise officielle de cette infrastructure. Mais les bailleurs, comme il dit que les bailleurs se sont retirés, les bailleurs ont dit qu'il faut se convenir parce que cette date, c'est la date d'aller en congé pour tous nos expatriés. Et qu'ils sont en train de voir, ils ont demandé une audience. Je prends le cas, voici une lettre officielle adressée par le chef de la délégation, l'ambassadeur Carpenter, à monsieur le ministre, une audience pour qu'on puisse débattre exactement du calendrier pour que ça cesse à tous les parties prenantes.
Et donc, ça veut dire que c'est la fin des travaux, ça veut dire que tout est terminé, c'est ce que vous voulez dire. On va procéder à une cérémonie.
Pour les travaux de la fibre optique, c'est la fin que nous sommes en train de projeter pour le 23 décembre. Mais pour les autres activités, je prends le cas de l'incubateur qu'il est en train de dire. Nous sommes en train de construire un centre de formation digitale à l'université de Bangui.
Oui, sur ce point, on y revient. Oui, c'est ça.
Okay, c'est... Non, c'est comme c'est dans ces trucs qu'il a ressorti qu'on va faire quoi avec un incubateur phare si le projet est arrêté. Donc, je dis pour le peuple centrafricain que le projet en tant que tel continue.
Vous dites en tant que tel, ça veut dire qu'il y a un autre volet qui...
Il y a le volet, il y a d'autres volets. Donc, je vais vous expliquer. Il n'y a pas d'arrêt au niveau du projet. Il n'y a pas d'arrêt au niveau du projet. Le projet suit son cours normal. Nul n'a le retard accusé. Le projet suit son cours normal. Et pour ce que dit M. Adouma, il a relevé que le projet a arrêté. Il y a peu de financement, tout. Il y a le financement. On a encore du reliquat.
Vous avez repris le financement ou...
Ce n'est pas question de reprendre. Le projet suit son cours normal. Et on a fait la revue de ce projet, peut-être au mois d'octobre. J'ai fait un document pour vous. Le mois d'octobre 2022, avec les deux bailleurs, l'ABAD et l'Union européenne, on a trouvé que le travail est déjà presque à la fin. C'est comme ça que le gouvernement, le ministre, Justin Gourinagad, a expliqué au Conseil des ministres pour qu'ensemble, ils choisissent une date pour la remise officielle. Et nous sommes sur ce point.
Vous l'avez déjà dit. Mais vous voulez répondre sur ce que vous avez écouté, M. Enon Gotuas?
Bon, ben, j'ai passé d'éléments à fournir à M. Adouma parce que déjà, les points évoqués ici, moi, je ne comprends pas où est-ce que le ministre a tiré ces informations. Parce que déjà, pour les deux phases du projet, comme il l'a suggéré, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse la part des choses.
Sur les phases du projet, je voulais dire, dès qu'il finit, je vais donner élément de réponse par rapport à ça.
Voilà. Donc, sur les deux phases du projet, telles qu'évoquées par le ministre Adouma, je pense qu'il fallait également faire la part des choses. Le premier projet et le deuxième projet n'ont pas le même bailleur. Parce que pour la
première phase, premier projet, c'est quoi? Donc vous rejoignez M. Adouma.
Effectivement, le problème, c'est que le premier projet, c'est toujours pour l'implémentation de la fibre optique au niveau sous-régional. Parce que c'est né de la volonté des chefs d'État à un sommet qui s'est tenu à N'Djamena que le projet CAB sous-régional devait être bâti. Et c'est à partir de là que les trois États pilotes qui ont été choisis, notamment la République centrafricaine, la République du Cameroun et également la République du Tchad, ont bénéficié des financements de la Banque mondiale pour mettre en place ce projet.
Ce projet à court.
Le premier projet plutôt. Ce n'est pas le deuxième pour bâtir cette infrastructure-là. Mais il s'avère que, même comme l'a évoqué le ministre Adouma, le Cameroun n'a pas utilisé les fonds de la Banque mondiale pour bâtir son infrastructure. Il en est de même pour le Tchad. Or, nous, dans les conditions où on se trouve, on est obligé de bénéficier de cet appui de la Banque mondiale pour réaliser le projet. Pendant ce temps, les autres ont trouvé quand même des mécanismes hors Banque mondiale pour démarrer leurs travaux. C'est comme ça qu'ils sont en partie. On était sur la phase études Parce que dans le projet, il y a également le volet renforcement du cadre institutionnel. Et dedans, il y a des études qui ont été réalisées et d'autres qui sont en cours de réalisation. Et c'est à ce niveau-là que la Banque mondiale a arrêté le cours du projet. On n'est pas parti de la phase environnement institutionnel à la réalisation proprement dite du projet. Maintenant, pour la phase 2, cette fois-ci, on est avec la BAD et l'Union européenne. Avec ces deux bailleurs, on est passé de la première phase qui est celui de l'environnement et maintenant on est dans la phase de réalisation. Et aujourd'hui, sans pour autant me tromper, je peux vous rassurer que le projet est tellement avancé qu'on ne peut revenir là-dessus. Parce que le défi aujourd'hui, c'est le manque de communication. Il n'y a pas assez d'informations ou de communication tout autour.
Et donc, il y a aussi de confusion, vous voulez dire, entre le premier projet qui a échoué, qu'a évoqué M. Adama, et le deuxième projet.
Il faut faire une rupture entre le premier projet et le deuxième projet.
Il ne faut pas dire que le premier projet a échoué. Le projet il y a une configuration régionale qui a été mise en place par la Banque mondiale et que cette configuration n'a pas accès aux deux États, au Tchad et au Cameroun. Le Cameroun, l'esprit du projet CAB datant en 2007-2008, c'était de faire une configuration, un projet qu'on va réaliser dans les trois États avec même financement, mais en imposant un système que pour la gestion de l'infrastructure, il faut mettre une structure de gestion en place avec une société mère qui est en international et des filiales dans les autres États. Le Cameroun a dit qu'il a Camtel en tant qu'opérateur au niveau de Cameroun. Donc, il ne peut pas confier la gestion de cette infrastructure à une autre entité encore. Au niveau de Tchad, ils disent qu'ils ont Sotel Tchad. Donc, ils préfèrent confier la gestion de l'infrastructure à Sotel Tchad. Et après, nous sommes Cameroun.
Et ici, en Centrafrique.
Le Cameroun, avant, c'était Socatel.
Mais pourquoi on n'a pas confié à la Socatel?
Mais attends, M. Armando. La configuration qu'on avait faite, on a retenu qu'on va créer un système de holding et que les filiales, ça sera des opérateurs historiques. Donc, au niveau du Tchad, c'est Sotel Tchad. Au niveau de Centrafrique, c'est Socatel. Comme l'autre a refusé cette configuration, le Cameroun, il s'est retiré. Il est parti prendre un prêt au niveau de Exim Bank en Chine pour faire le réseau fibre optique. Malgré que c'est le CAB 1 qu'au niveau du Cameroun. Au niveau de la République centrafricaine, nous sommes basés sur le financement, le don de la Banque mondiale pour faire une première phase, c'est avance de préparation du projet de 7 millions de dollars. Et cette avance a servi seulement pour faire de le toilettage du secteur de l'environnement juridique du secteur. Ce n'est pas la phase infrastructure. La phase infrastructure est intervenue après au mois de mai 2012. On a signé un accord de 20 millions de dollars pour la phase infrastructure de ce projet. Mais cette phase, on n'a pas rempli les conditions de mise en vigueur de cette phase. Il faut le bien dire. Parce que les conditions mises en vigueur, il faut qu'on signe un mémorandum d'entente avec le Tchad pour nous accordons de mettre cette structure de gestion en place. Et que là, le Tchad s'est décidé de ces des conditions de mise en vigueur en créant entre-temps une autre société de gestion qu'on appelle Sitcom, et par ordonnance. Nous sommes retrouvés à Djamena, on a discuté de ce protocole et que la création des Sitcom va mettre frein aux conditions de mise en vigueur de l'accord de financement signé pour nous et le Tchad.
Vous revenez sur ma question tout à l'heure.
Oui.
Vous avez vu au Tchad, au Cameroun, vous l'avez aussi bien dit.
Oui.
Voilà, on a confié aux filiales, vous avez dit, des sociétés historiques comme la Socatel. Mais pourquoi ici, en Centrafrique, ce n'est pas le cas?
Non, c'est par rapport à cette première phase du projet en tant que telle de 2009 à 2016. Cette phase a mis fin parce que la Banque mondiale a compris que nous n'avons pas rempli les conditions de mise en vigueur du projet et que la phase infrastructure qu'on avait signée au mois de mai 2012, arrivée en décembre, 6 mois après, rien n'est fait. Décembre, ils ont envoyé une note d'annulation de l'accord de financement pour la phase infrastructure. Ça restait seulement le reliquat pour finaliser le toilettage du secteur TIC en République centrafricaine. Et le 15 mars 2016, après les événements, ils ont finalisé le projet de la phase 1. Mais nous, maintenant, le gouvernement a estimé qu'on ne peut pas laisser tomber ce projet. Or, entre ce qui se passe au niveau de la sous-région, il faut comprendre, au Congo, ils ont préfinancé le projet CAB à hauteur de 50%. Il y a un fonds de contrepartie. Au niveau du Gabon, il y a un fonds de contrepartie. Au niveau du Cameroun, il y a un fonds de contrepartie de 60%. Mais nous, en tant qu'État en République centrafricaine, on n'a pas de fonds de contrepartie.
Vous avez plus de minutes sur M. Adouma. Okay. Vous reprenez la parole pour rebondir avant qu'on puisse évoluer, monsieur.
Merci, Armando. Je crois qu'il y a des détails que le ministère des PTT peut dire au cours d'une émission réservée aux télécommunications, par exemple. Mais je voudrais tout simplement dire qu'on a tous fait le constat
très rapidement que le premier projet a échoué. C'est-à-dire que si un projet ne va pas jusqu'au bout, c'est un échec. Je ne sais pas comment on peut qualifier cela autrement. Bon, s'il y a un autre terme plus approprié, je serais disposé à en prendre. Dans le schéma même de gestion de ce projet en cours, vous verrez que Sokatel n'est même pas concerné. D'ailleurs, il n'y a pratiquement aucun personnel qui a suivi de formation pour pouvoir se préparer un peu à la gestion de ce réseau-là. Et aujourd'hui, on s'attend plutôt à recruter une société internationale pour gérer l'exploitation et l'extension du réseau. Mais la gestion des infrastructures, aussi, on cherche encore à créer une autre société. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on reçoit des dons en termes de financement. C'est-à-dire que vous n'avez rien, on vous donne de l'argent. Ça a été le cas pour le premier projet. Et on s'amuse à ne pas bien le gérer et on te retire cet argent. Tu n'as rien, on te vient en aide. Tu n'arrives même pas à satisfaire les conditions pour que ceux qui te donnent gratuitement cet argent-là puissent continuer à le faire jusqu'au bout. Et exactement pareil pour le projet actuel. Et pour qu'on arrive à ces réalisations, il faut comprendre un peu le mécanisme de gestion de la BAD. C'est-à-dire que la BAD ne nous donne pas d'argent comme ça. Vous recrutez des entreprises, la BAD donne directement le financement à cette entreprise à qui réalise les travaux.
Via ces...
Voilà. Mais là où il y a eu des problèmes, c'est le volet social. Parce que le volet social, c'est nous qui recensons les gens sur le terrain où le réseau passe, donc qui subissent des dommages. C'est nous qui les recensons, c'est nous qui évaluons et c'est nous qui... Devant et effectivement.
Le mot en tant que tel, c'est le projet d'indemnisation des personnes affectées par le projet.
Donc c'est ce côté-là qui n'a pas été bien géré. Et c'est ce qui a suscité, d'après les informations que j'ai reçues, c'est ce qui a suscité l'arrêt du financement de la fibre optique. Mais les autres volets, effectivement, étaient réalisés parce que le financement était donné directement aux entreprises qui réalisaient ces travaux. Si c'était donné à nous ici, on n'aurait rien vu du tout. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on reçoit un don pour réaliser un réseau, c'est-à-dire que ce réseau doit appartenir à l'État et on n'a aucune entreprise de l'État pour en assurer la gestion. On cherche même maintenant à recruter une autre entreprise pour gérer les infrastructures. C'est-à-dire
au détriment de la Sokatel.
Pour être terre à terre, c'est-à-dire que quelqu'un t'aide à te doter une femme et puis tu dois trouver quelqu'un pour la gérer. C'est des situations difficiles à imaginer ailleurs. Et donc vous allez voir que tous ces mécanismes, tous ces manigances, tout ce qui est fait dans le sens de l'intérêt personnel, fait que ce projet n'avance pas. Et c'est dommage pour le peuple centrafricain et la jeunesse centrafricaine. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que l'administration fonctionne comme à l'âge de la pierre taillée. Ailleurs, vous arrivez, vous voulez établir un duplicateur d'acte de naissance, on pianote, on sait que vous êtes né à tel endroit, etc. Donc l'administration même est informatisée. Mais vous arrivez même au niveau du ministère des PTT, et même eux-mêmes, c'est-à-dire que les coordonnées sont mal chaussées. Mais il n'y a même pas de réseau Internet. Et rien que ça. Et encore moins, ceux qui gèrent ces nouvelles technologies, parfois il y en a même qui n'ont pas le téléphone Android, c'est-à-dire que vous avez des bornes qui vous disent quand même là où vous devez aller. C'est très compliqué, on ne gère pas un pays comme ça. Donc tous ces retards, toutes ces pressions qui sont exercées sur l'unité de coordination dont il ne peut pas en parler, c'est normal, font que le financement est arrêté. Et aujourd'hui, même si on se retrouve le 23 pour faire une inauguration, ce sera de la poudre aux yeux. C'est pour dire aux centrafricains qu'on fait quelque chose, mais en réalité, le réseau ne sera pas opérationnel parce que le financement est arrêté et parce qu'il va falloir... Généralement, quand un financement est arrêté par les bailleurs, il va falloir reconstituer les fonds qui ont été mal gérés. La République centrafricaine n'a pas de moyens en ce moment, parce que le trésor est vide, de reconstituer ces fonds-là afin de faire revenir les bailleurs dans le financement de ce projet. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, la phase 1, c'est-à-dire que ce que les autres pays ont déjà réalisé, ils ont déjà réalisé la phase 1, ils ont réalisé la phase 2, c'est-à-dire l'extension du réseau dans les principales villes du pays, et ils sont sur la phase 3, où ils sont en train d'implémenter beaucoup de technologies chez eux. Et du coup, les équipements qu'on est en train d'installer maintenant, et comme on ne pourra même pas exploiter ça tout de suite, vous allez voir qu'au moment où on va commencer à exploiter, ces équipements seront désuets parce que dans l'univers des technologies, des télécommunications, les technologies évoluent très vite. Donc ces technologies seront désuètes. On sera en train vraiment de ramer derrière les autres pays comme si on n'avait pas de gens intelligents dans ce pays. Ça, c'est vraiment la situation assez difficile. Et si vous lisez quand même des articles sur l'économie de la sous-région, on vous dirait que le secteur des transports et des télécommunications dynamise les économies en ce moment. Et même on dit, malheureusement, la République centrafricaine ne peut pas en profiter parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas, notre fibre optique n'est pas opérationnelle. Et on est le dernier pays africain, le dernier. Et on s'amuse à ce niveau-là. Donc, on n'a pas de réseau opérationnel alors qu'ailleurs, vous payez 500 aujourd'hui, vous avez beaucoup de gigas pour naviguer. Donc, on n'a même pas la capacité pour pouvoir faire des recherches suffisamment, de pouvoir se former et autres à cause vraiment de la malgouvernance dans ce secteur qui est vraiment criard.
On va donner la parole à M. François-Xavier Dekoupou. Je voulais dire que vous êtes coordinateur national du projet dorsal fibre optique d'Afrique centrale ici en République africaine. Parmi les quatre étapes, à savoir les travaux de génie civil, les travaux de câblage, les travaux de construction de corps et des sites techniques et aussi les travaux d'installation des équipements de transmission, qu'est-ce qui reste à faire en ce moment?
Monsieur Armando, tout ce que tu as pu citer, tout est réalisé déjà à 100%. Je peux parler dans les détails, génie civil, tranchée, installation, système d'énergie hybride, installation des équipements de transmission télécom, donc les équipements ISP. Tout ce que tu as cité, c'est fini. Ce que nous sommes en train de faire dans cette phase au mois de novembre, c'est de faire la configuration de ces équipements et de faire le test. Nous sommes en phase de test. Le test, ils sont déjà une équipe de techniciens qui sont déjà au niveau de Berberati pour aller à Salo. Ils ont fini le résultat des tests hier, c'est concluant. Donc aussi la section Berberati-Gamboula, aussi c'est concluant. Donc c'est pour te dire que de Bangui jusqu'à Berberati, jusqu'à Gamboula, jusqu'à Salo, donc le test est concluant. Donc on peut estimer heureux que les textes sur les fibres sont déjà finis. Ça reste la configuration, parce que la configuration, ça va prendre qu'on essaie de jumeler les systèmes d'énergie hybride, le solaire, le générateur. Sur tous les sites, on a mis des générateurs. Au niveau de Bangui, le site du centre d'opération de réseau se trouve au niveau de Sokatel-Bangui-Sika. Donc là, on a deux générateurs. Il y a un générateur de 150 kVA et un générateur de 27 kVA. Il y a aussi le système d'alimentation hybride. Et en plus de ce système d'énergie, on a le réseau Enerka. Donc là, on attend des techniciens qui viendront, des experts qui arriveront ce dimanche, par le vol d'Air France, qui vient de Grec, et aussi l'expert qui viendra au mois le 5 décembre d'Israël et des États-Unis pour finaliser le reste de la configuration. Sur ce point, on n'a pas beaucoup de trucs. Pour l'entente des populations et de ceux de Bangui en général et de ceux de la RPO où se trouve le projet totalement finalisé, ça reste seulement ce point-là de configuration de ces équipements-là. Je voulais aussi dire en tant que tel aux Centrafricains qui nous écoutent sur le Radio Ndekeluka que tout ce qu'est en train de raconter le ministre Adouma, c'est de la pure diversion. Ça, on ne rentre pas dans des débats inutiles. Nous sommes tous des intellectuels, nous sommes tous au sein du ministère. Il est à Sokatel. S'il veut avoir des informations pour sa gouverne, on n'est pas un homme politique pour lancer des mensonges, un homme politique pour éduquer le peuple. Mais pas sur des mensonges. Ça, je ne rentre pas dans des débats en tant que tel, mais le projet fibre optique que nous sommes en train de mener sous le ministère de l'économie numérique et des postes et télécommunications sur son cours, et que là, présentement, nous sommes avec nos partenaires, l'ABAD et l'Union européenne et le gouvernement centrafricain, de s'asseoir pour trouver un calendrier d'attente. Je vous ai monté la lettre de l'ambassadeur, chef de délégation, qui a demandé une audience avec le ministre pour qu'ensemble, on trouve un agenda approprié pour les trois parties. Donc, gouvernement centrafricain, BAD et Union européenne.
Oui, monsieur Enoch Gauthias, sur ce point, les quelques points qu'on a évoqués tout à l'heure, il y a un peu de retard. Mais aussi, dans ce projet, il est prévu la mise en place d'un centre de formation digitale au sein de l'Université de Bangui. Tout ça aussi, ça tarde à être concrétisé.
Non, monsieur Armando, je ne pense pas, parce que déjà, les travaux ont débuté au niveau de l'Université de Bangui. Si oui. Vous faites un tour là-bas, vous allez voir que...
Oui, débuté, parle de la finition.
Ben, on vient de lancer. Donc, ça, il y a une durée de réalisation des travaux. Il faut respecter ce délai. Parce que l'entreprise qui a été recrutée pour la construction du centre de formation digitale couplé de l'incubateur est à pied d'œuvre. Ça veut dire que le délai imparti pour la construction n'est pas fini. Donc on ne peut pas parler de retard. Cumulativement à ça, ce même entreprise-là travaille au niveau de NES pour la rénovation du département génie civil. Et en même temps, elle doit également travailler au niveau de lycée technique. Donc vous voyez, c'est un chantier assez vaste. Donc, il y a un délai de réalisation qui est arrêté. Si le délai est dépassé, on peut parler de retard. Mais quand on est encore dans ce délai, je ne vois pas pourquoi on peut parler de retard dans la réalisation de ces travaux. Je reviens un peu sur ce que vient de dire le coordinateur Projet Cap, c'est vrai. On ne va pas se lancer dans des discussions inutiles. Le souci aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'infrastructure fonctionne. Et le délai imparti doit être tenu. Il a dit, globalement, le projet à 98% de sa réalisation. Le test dont il
98%.
Fait, voilà, le test dont il fait mention ici, c'est que sur l'ensemble du parcours du projet, nous avons au moins 12 sites techniques, en commençant par le corps de Bangui, jusqu'à la frontière avec le Cameroun, jusqu'à la frontière avec le Congo. Et sur les 12 sites, il faudrait que nous fassions le test de point par point pour vérifier la qualité de la fibre. Donc, le test est parti de Bangui, comme il a dit, Berberati est déjà dépassé. Et aujourd'hui, on s'attaque sur le tronçon avec le Cameroun et également le tronçon avec le Congo. Et il a dit depuis hier, les résultats ont été concluants. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas de soucis, on attend. C'est vrai, dans tous les travaux, il y a aussi des soucis. Et là où peut-être il n'a pas évoqué, c'est l'avenue Boganda, à partir de le man de Bangui.
Je fais une précision par rapport à ce qu'il a en train de dire.
Donc, à partir de l'autre rond-point Boganda, en allant là-bas, il y a le travaux de construction de la ligne à haute tension, faite par nos amis chinois, qui ont fait des coupures dans nos infrastructures. Et là, on a tenu des réunions. Nous avons le récat des matériaux qui sont laissés. L'entreprise est en train de mettre en place une équipe pour remédier à ces problèmes. Moi, je ne vois pas la difficulté. Donc,
voilà, s'il n'y a pas cette difficulté, mais il y a un peu de retard dans l'opérationnalisation, comme vous l'avez dit, la date précise où on a dépassé, c'est pourquoi on est là sur ce plateau pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui les travaux ne sont pas encore terminés. Oui, monsieur Adouma.
Oui, merci. Je voudrais quand même relever un mensonge. Vous vous souviendrez, Armando, que j'ai parlé déjà du faux projet fibre optique ici. Et tout de suite après, ça a fait réagir le ministère, qui avait, je crois, fait dire par le coordonnateur qu'en septembre, le réseau sera opérationnel. Je crois que c'était même sur Radun de Kelouka. Où en est-on? Voilà un mensonge. Et puis, lorsqu'on travaille au ministère par décret, on ne recrute pas un coordonnateur par décret. On disait tout à l'heure que je mentais, mais non. Donc, je rappelle à tous les centrafricains qui nous entendent aujourd'hui, et particulièrement les jeunes qui sont très friands des nouvelles technologies, que ce projet est en panne, que le financement est arrêté, et qu'il va falloir trouver une autre solution. Et aujourd'hui, cette solution, on ne l'a pas. On se propose d'aller le 23 décembre faire une inauguration. Mais à côté, on est en train encore de lancer le projet de la formation. C'est-à-dire que vous installez un réseau, vous n'avez même pas de personnes qualifiées pour pouvoir exploiter ce réseau. Vous êtes seulement en train de créer la structure qui va devoir les former. Et vous dites que vous êtes prêt. Comment vous achetez un véhicule et vous dites, bon, maintenant, on va créer une auto-école pour pouvoir former le chauffeur. Mais le véhicule va être opérationnel quand? Donc vraiment, rien que dans le jardin de leurs arguments, vous comprenez toutes les difficultés qu'il y a par rapport à ce projet. Et quand je dis qu'il n'y a pas de réseau Internet dans un département qui gère une nouvelle technologie, est-ce que c'est un mensonge? On peut aller sur place, vérifier. Comment vous pouvez faire de la recherche, comment vous pouvez faire des projections quand vous n'avez pas les compétences qui savent exploiter un réseau? Il faut rendre, et je plaide pour vous, les cadres qui travaillent là-bas. Parce que vous devez avoir un réseau, vous devez avoir de la formation, vous devez connaître les nouvelles technologies que vous voulez faire développer en République centrafricaine. Mais si vous ne maîtrisez pas cela, comment vous allez développer cela? Ce n'est pas possible. Donc vraiment, il y a des paradoxes que je ne comprends pas.
Quelques questions, parce que le temps nous fait défaut, monsieur le coordonnateur. On revient, il est aussi prévu la digitalisation de l'administration dans ce projet. Comment cela va se faire?
La digitalisation de l'administration, c'est un autre projet.
Toujours dans le projet
sur l'optique. C'est la gouvernance numérique. C'est un projet que le gouvernement a signé avec la Banque mondiale. Et là, ce projet aussi est en cours.
Et ça doit avoir lieu.
Le projet déjà, et le projet est logé au ministère.
Avec une condition si la fibre optique est opérationnelle.
Tout projet a des conditions de mise en vigueur.
Non, je parle de, c'est-à-dire la digitalisation de l'administration. Il va falloir avoir ce que vous avez dit, les travaux finalisés, opérationnalisés, la fibre optique pour prétendre à cette
la digitalisation,
à ce projet.
On a anticipé pour la digitalisation en mettant des ODF, des équipements en tant que tels, au niveau de 52 services. On a commencé par la présidence, la primature de l'Assemblée nationale, le ministère du Plan. Tout en a cité d'être ministère clé et d'autres entités publiques et aussi d'autres institutions. Pour que, dès que l'infrastructure est mise en service, automatiquement, ils peuvent se brancher. Si l'opérateur, quand on va recruter le gouvernement, pour aussi l'information du peuple centrafricain, le gouvernement, en commun accord avec le bailleur, dans la configuration de ce projet, de recruter un opérateur d'infrastructure privée pour la gestion, la commercialisation et l'extension. Ça, le processus est en cours avec le bailleur. Donc, d'ici peu de temps, on va arrêter, on va trouver l'opérateur qui sera dédié, qui sera attributeur de ce marché pour gérer et commercialiser l'infrastructure que nous sommes en train de mettre en service d'ici.
Et donc, ça veut dire que la Socatel est mise de côté.
Le gouvernement, avec la Banque mondiale, entre-temps, avait fait une étude. Pas une étude en tant que tel, au titre technique, financier et comptable de Socatel. Il s'avère qu'ils ont demandé, ils ont fait des recommandations pour que le gouvernement recapitalise, donc ouvre le capital de Socatel, donc une privatisation. Et ça, cette recommandation, jusqu'à ce jour, n'a pas mis en service. Et que les deux bailleurs, l'Union européenne, comme c'était fait, c'était a été fait par la Banque mondiale, les deux bailleurs en tant que tels, ils disent que face à la situation de Socatel présentement, ils ne peuvent pas confier la gestion à Socatel. Il faut que le gouvernement mette en place, choisit un opérateur privé d'infrastructure pour la gestion, bien dit.
Ça, vous l'avez déjà dit, pour gain du temps.
Oui.
Oscar, Monsieur Gauthier, vous voulez dire un mot sur ce point ?
Non. Sur la digitalisation de l'administration qui est conditionnée par l'opérationnalisation, bien sûr, de la fibre optique.
Oui, les deux sont liés parce qu'on ne peut pas parler de digitalisation d'une administration sans pour autant qu'il y ait la capacité derrière.
Oui.
Donc, aujourd'hui, avec la fibre optique, c'est de fournir la capacité à la RCA pour permettre à nos administrations de mieux fonctionner. Et le volet digitalisation de l'administration, comme vient de le dire le coordonnateur, projet CAM, c'est un projet qui est actuellement financé par la Banque mondiale et qui est copiloté par le ministère des Finances, le ministère de TIC et également une partie le ministère de la fonction publique. Donc ça veut dire que c'est un truc collégial entre les départements sectoriels. Aussi. Donc c'est un projet qui vient d'être mis en place et qui va démarrer les travaux d'ici peu. Mais ce qui est sûr, nous aurons besoin de ces capacités.
Oui, on va écouter, monsieur Adouma, sur la digitalisation de l'administration centrafricaine, conditionnée avec l'opérationnalisation d'ailleurs de la fibre optique.
Oui, avant cela, je voudrais quand même faire une remarque. Ce ne sont pas les partenaires qui ont dit que Socatel doit être mis de côté. Les partenaires ne nous imposent pas ce que nous faisons. Les partenaires viennent nous appuyer dans nos initiatives. C'est comme ça qu'on travaille avec les partenaires. Le coordonnateur ne se rappelle peut-être pas, mais c'est notre volonté à nous de mettre Socatel de côté. Et parce qu'on veut amener une autre entreprise où peut-être on va être actionnaire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on sait sur ces manières de faire. Et concernant la digitalisation, il n'y a pas encore d'organe de créer pour la transformation digitale. Parce que cet organe doit être créé même avec un conseil d'administration et qui va piloter tout ce volet. Mais vous allez voir qu'au niveau du ministère, il y a eu plusieurs études qui se contredisent. On amène X qui fait une étude, on veut faire ceci. On ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Et je dis que c'est aussi lié à ce problème de capacité qu'il y a là-bas. Et on est à une ère où vraiment on ne peut pas comprendre que dans ce domaine-là, on n'ait pas les compétences dans ce pays pour pouvoir orienter les choses. Donc aujourd'hui, on travaille un peu comme des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est ça en réalité. Les télécommunications, pour moi, en République centrafricaine, c'est vraiment une difficulté qu'on ne peut pas comprendre. Et vous n'imaginez pas en termes économiques, ce que ce secteur devrait apporter, s'il était bien géré, à notre pays. Des entreprises qui devraient être créées, les start-up qui devraient travailler très facilement avec cela, les études que les enfants devraient faire à partir de ce réseau très facilement. Vous n'imaginez pas vraiment ce que nous perdons. Et quand je dis qu'il y a même des études qui ont été faites au niveau de la sous-région, on dit que les télécommunications et les transports, ce sont ces deux secteurs-là qui font que les économies de nos pays sont stables. Mais nous, on n'y est pas du tout. Comment on peut avoir une économie qui existe même en tant que tel? Est-ce qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas pianoter juste pour avoir son salaire? Comment ça évolue? Même un petit pays comme le Togo, vous pianotez, vous rentrez votre numéro de matricule, vous avez déjà la situation de votre salaire avant que ça ne soit payé. Il y a des petites choses déjà que les autres pays font. Je dis, on est encore à phase zéro. On n'a même pas fini de réaliser la phase 1.
Et pour vous accusez la gestion, la gouvernance?
Mais c'est la malgouvernance, tout simplement. Parce que si les autres ont réussi la phase 1 de leur projet depuis 2008-2009 ou autre, et que nous n'avons rien fait, c'est qu'on n'a pas suggéré.
On va écouter le coordonnateur des Coupou.
Avant cela, pour lui permettre de répondre à ma question de tout à l'heure qu'il a oublié. Le retard est de combien de mois? Et on attend rattraper ce retard quand? On nous avait parlé de septembre, lui-même on avait parlé. Maintenant, on est en novembre, bientôt en décembre. Quand est-ce que ce projet pourrait être opérationnel?
Voilà, je vais clôturer avec votre question. Sur cette question, monsieur le coordinateur, vous avez évoqué, ça évolue bien. Vous avez écouté monsieur Gauthias, le chef de mission, qui parle de 98% des travaux maintenant qui évoluent très bien. Mais à quand l'opérationnalisation nette et claire de la fibre optique en Centrafrique pour que les gens, les Centrafricains qui sont impatients, peuvent comprendre maintenant, peuvent naviguer, peuvent avoir accès à l'Internet comme dans d'autres pays?
Monsieur Armando, on dit opérationnalisation, la remise officielle des infrastructures, il y a encore des prérequis pour mettre en service. L'opérateur que le gouvernement est en train de choisir doit s'installer, doit commencer à faire ce qu'on appelle peut-être un guide du marché. Il y a trois opérateurs, il y a Telecel, il y a Move, il y a Orange, et il n'y a plus le quatrième, l'opérateur historique Socatel. il faut qu'il mette aussi la capacité à la disposition de son opérateur. Lui, en tant que tel opérateur de gros, ne peut pas être opérateur de détail. C'est les quatre-là qui vont vendre la capacité au terrain centrafricain, même aux particuliers et à ces entités. Il faut que cette donnée-là, nous, on va finaliser au mois de décembre. Mais l'opérateur maintenant, gestionnaire, doit aussi maintenant commencer à prendre contact avec ses opérateurs pour voir comment, et aussi d'autres entités. Puis je prends le cas de la MINUSCA, je prends le
cas
de
la PIAG. Donc c'est un long processus.
Non, c'est pas un long processus. Il appartient, on a dit bien, dans son stratégie, dans son plan de business, lui appartient d'aller plus vite. Parce qu'il va signer peut-être une convention de délégation des services publics avec le gouvernement pour une certaine durée. Donc s'il le retarde aussi, ça joue aussi sur sa gestion. Donc lui, en tant que tel, si, dès qu'il signera la convention avec le gouvernement, il doit se mettre au travail pour que le plus rapidement possible, dans un bref délai, et que le centrafricain lambda puisse bénéficier de ce flux de cette infrastructure. Donc ça, il appartient maintenant à l'opérateur que nous allons choisir en collaboration avec le
monsieur
gouvernement.
Monsieur Gauthias, oui, sur cette même question, à quand l'opérationnalisation, les centrafricains attendent pour que maintenant, on sait que voilà, c'est bon, nous avons la fibre optique qui marche très bien, et puis les centrafricains peuvent maintenant naviguer, le débit, etc., de connexion marche très bien, c'est ce qu'on attend.
Comme vient de le dire le coordinateur projet CAB, c'est un processus qui est en train de s'achever. Et là aussi, parmi la dernière phase qui reste, il y a aussi des étapes qu'il fallait surmonter ou baliser. Donc ça veut dire que ce sont des étapes qui ont été élaborées, qui sont en train d'être exécutées. Donc ça veut dire que là, comme on est en train de dire, la phase d'infrastructure du projet, nous, on est complètement à la fin. Maintenant, il y aura remise officielle au gouvernement et ensuite qui va se coupler avec le recrutement de l'opérateur gestionnaire de l'infrastructure, qu'il y aura un programme à mettre en place pour la vente des capacités. Donc, dedans, il faudrait également voir la négociation que l'opérateur doit tenir avec les carrières pour acheter ces capacités et les revendre aux opérateurs.
Mais selon vous pensez que ça va prendre combien de temps? Un an, deux ans encore?
Non, ce n'est pas question d'une année, deux ans. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte jusqu'à la fin de cette année.
Oui, ça, c'est votre objectif, mais puisqu'il y a des contraintes.
Ces contraintes seront indépendantes de ce que nous, on s'est fixé comme calendrier pour la remise officielle de l'infrastructure au gouvernement.
Monsieur Adouma, vous avez posé vos questions tout à l'heure. J'espère que vous avez.
Je ne suis pas du tout satisfait
des réponses.
Parce qu'on savait déjà, depuis la nuit des temps, qu'il fallait recruter une société qui va faire l'exploitation et l'extension. Ça, on le savait depuis. Et recruter une société, ce n'est pas de la mer à boire. On pouvait s'y prendre plus tôt, avant que le réseau ne soit opérationnel. On ne va pas attendre que le réseau soit opérationnel. On se met maintenant à recruter une société pour gérer. C'est quelle manière de fonctionner? Je vous parlais de capacité, on me disait que je mentais. C'est ça, mon mensonge. Au moins, vous le dites. C'est vous-même qui le dites. Mais quelqu'un qui sait faire de la prévision sait que mon réseau va être opérationnel dans 3 mois. Et je commence maintenant à former quelqu'un, ou bien à recruter quelqu'un qui va pouvoir le gérer. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Alors comment on se comporte de cette manière? C'est pour vous dire qu'il y a vraiment de difficultés.
Mais en écoutant le processus, les explications du chargé de mission et du coordinateur, ça veut dire qu'il n'est pas probable que la société historique, la Socatel, puisse être retenue.
Non, la Socatel est déjà écartée. Je dis que c'est le gouvernement qui décide de l'orientation du projet. Et donc le gouvernement, ou bien le ministre, a déjà choisi un autre schéma. Donc Socatel est oublié. Et Socatel va continuer à sombrer dans sa situation. Et donc Socatel ne peut pas espérer aujourd'hui se relever parce que même l'État n'a pas les moyens pour pouvoir injecter beaucoup d'argent dans toutes les technologies sont désuètes. Hein. Donc il va falloir beaucoup de milliards pour pouvoir relever la situation. Mais en confiant la gestion effectivement de la fibre optique à Socatel, ça devrait lui permettre quand même d'avoir des revenus pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Donc il ne reste que à Socatel ou au personnel que les yeux pour pleurer leur sort.
Monsieur le coordinateur, vous avez quelques mots? Je vous vois remuer la tête.
Non, le mot de fin, Armando, c'est pour dire à la population centrafricaine que nous sommes presque à la fin, nous sommes à la fin, et que nous allons organiser une cérémonie d'ici peu de temps, en commun accord avec nos partenaires, qui nous aident dans ce processus, pour qu'on remette officiellement l'infrastructure au gouvernement,
Et continuer la suite.
Et continuer la suite avec un gestionnaire.
Voilà, donc ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas encore une idée nette pour l'opérationnalisation claire d'ailleurs de la fibre optique. Mais le processus, c'est le gouvernement qui poursuit. Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres tout au long de ces discussions démocratiques. Nous avions parlé du retard accumulé dans l'opérationnalisation de la fibre optique tant attendue par la population centrafricaine. Nous avons eu la participation de Raymond Adouma, cadre à la Société Centrafricaine des Télécommunications Socatel, ancien ministre et membre de l'opposition démocratique. Merci d'être venu, monsieur.
Merci, Armand.
Merci bien à vous, François-Xavier Dengoupou, coordinateur pays du projet dorsal la fibre optique d'Afrique centrale.
Merci, Armando.
Merci aussi à vous, Enoch Gauthias.
Merci, Armando.
Chargé de mission de développement des infrastructures au ministère des Postes et Télécommunications. Merci à toutes et à tous. Armando Nguendi, c'est moi. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure et même fréquence pour un autre thème sur la fréquence de la paix et du développement du peuple centrafricain. Prenez bien soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois. Bon week-end à tous.
Merci.